Bienvenue, il est 3h à Paris, 2h, Antoine Universel.
Antoine Gallen.
À la une, Donald Trump appelle Vladimir Poutine à épargner la vie de milliers de soldats ukrainiens sur le front. Et ce, tandis que le chef d'État russe a dit oui à un cessez-le-feu, mais sous condition. Nous y reviendrons. En Allemagne, les écologistes donnent le feu vert à Friedrich Merz pour son plan géant d'investissement. Dans ce journal également, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan entérinent un accord crucial pour l'Asie centrale. Une victoire après 3 décennies de conflit entre ces 2 ex-républiques soviétiques. Et puis le Tchad reçoit la visite de Marine Le Pen ce week-end. La chef du parti d'extrême droite doit rencontrer le président Mahamat Idriss Déby. Après 3 ans de guerre, la porte d'un cessez-le-feu en Ukraine est entrouverte. Ce jeudi, Vladimir Poutine a déclaré y être favorable, mais a posé ses conditions. Depuis, Donald Trump et son homologue se sont eus au téléphone. Des discussions constructives, selon le président américain. Son chef de la diplomatie, Marco Rubio, insiste qu'il faut garder un optimisme prudent. Correspondance de Lumna Naki à New York.
Il y a une très bonne chance que cette horrible, cette sanglante guerre se termine enfin, a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social. Le président s'est félicité des échanges que son envoyé spécial Steve Witkoff a eu avec les responsables russes. Il a aussi appelé Vladimir Poutine à, je cite, épargner la vie de milliers de soldats encerclés en ce moment par l'armée russe, faisant référence aux informations russes évoquant des soldats ukrainiens encerclés à Koursk, une information démentie plusieurs fois par Kiev. Hier, les responsables russes ont remis leurs conditions pour un cessez-le-feu à l'émissaire américain, précisant que Vladimir Poutine attendait désormais un appel de Donald Trump. Ce matin, la Maison-Blanche a précisé qu'aucun entretien téléphonique n'était prévu entre les deux hommes, mais que, je cite, « cela pouvait changer à tout moment ». Au même moment, le chef de la diplomatie américaine appelait à un optimisme prudent quant à une fin rapide du conflit. Marco Rubio a expliqué qu'il y avait encore beaucoup de choses à discuter. On n'a jamais dit que ce serait facile, mais on est dans une meilleure position qu'il y a une semaine, a-t-il déclaré. Lubna Anaki, New York, RFI.
Et du côté de Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine fait désormais tout ce qu'il peut pour saboter la diplomatie en posant des conditions extrêmement difficiles et inacceptables. Ce sont ses mots. Le président français Emmanuel Macron exhorte la Russie à accepter la trêve et cesser les déclarations dilatatoires. L'Ukraine, dossier brûlant du G7 qui a lieu en ce moment au Canada. Après 3 jours de discussion, les chefs de la diplomatie ont affirmé leur unité en menaçant la Russie de sanctions si elle n'acceptait pas le cessez-le-feu auquel l'Ukraine a donné son feu vert. Pendant ce temps, Marc Carney remplace l'ex-premier ministre Justin Trudeau à la tête du Canada. Une arrivée en pleine guerre commerciale avec les États-Unis qui menace également son voisin d'annexion. Nous ne ferons jamais de quelque manière que ce soit partie des États-Unis, les mots du nouveau premier ministre canadien lors de son premier discours officiel. Friedrich Merz peut dire ouf, son plan géant d'investissement a été validé par les écologistes. Le futur chancelier allemand avait besoin de leur accord. Un plan d'investissement massif de plusieurs centaines de milliards pour la défense et les infrastructures. Les précisions de Pascal Thibault à Berlin.
Hier encore, ils se sont rudement affrontés durant un débat parlementaire houleux dans la nuit. Ils ont trouvé un compromis. Friedrich Merz, le futur chancelier, peut souffler. Son plan d'investissement géant est a priori sauvé. Pour lever le frein à la dette et débloquer des centaines de milliards pour les dépenses militaires et les infrastructures, chrétiens et sociaux-démocrates, qui doivent demain gouverner le pays, avaient besoin du soutien des Verts pour obtenir la nécessaire majorité des 2/3 pour réformer la Constitution. Le compromis trouvé fait des concessions aux écologistes. 100 milliards sur les 500 prévus pour le fonds spécial pour les infrastructures seront réservés pour le climat. Les Verts obtiennent aussi que la levée du frein à la dette pour la défense ne concerne pas que les défenses militaires, mais aussi la protection civile ou encore le renseignement. Dans une réaction à chaud, Friedrich Merz s'est dit satisfait du compromis trouvé.
Nous sommes en état de nous défendre. Il n'y aura plus aucune impasse financière pour défendre la paix et la liberté sur notre continent. L'Allemagne est de retour. Je suis très satisfait du compromis trouvé.
Les réformes constitutionnelles doivent encore être votées mardi au Bundestag et vendredi prochain au Bundesrat, la chambre haute qui représente les régions. L'adoption de ces mesures facilitera les négociations de coalition entre chrétiens et sociaux-démocrates qui ont commencé et qui doivent déboucher sur l'élection de Friedrich Merz comme chancelier dans la seconde quinzaine d'avril. Pascal Thibault, Berlin RFI.
La Serbie se prépare à une manifestation massive à Belgrade. Des dizaines de milliers de manifestants sont attendus dans la capitale ce samedi. L'ONU appelle les autorités à ne pas interférer indûment. Depuis le 1er novembre, les manifestants disent non à la corruption et demandent des comptes après l'accident mortel de la gare de Novi Sad qui a fait 15 morts dans l'effondrement d'un toit. L'ex-président des Philippines devant la Cour pénale internationale, Rodrigo Duterte a répondu aux accusations de crimes contre l'humanité de la CPI, des meurtres commis au nom de sa guerre contre la drogue qui a fait des dizaines de milliers de morts entre 2011 et 2016. C'est le premier ex-chef d'État asiatique à être inculpé par la CPI. Prochaine étape fixée par la Cour pour confirmer les accusations, ce sera le 22 septembre. Le Kyrgyzstan et le Tadjikistan entérinent un accord crucial pour l'Asie centrale. Les deux pays voisins ont signé ce jeudi un accord frontalier, notamment pour le contrôle de l'eau. Une victoire après trois décennies de conflits entre ces deux ex-républiques soviétiques. D'autant plus que depuis une décennie, les liens se resserrent entre les pays centra-asiatiques. Le président kyrgyzstanais appelle désormais à créer un espace de libre circulation dans la zone. Lilia Olkinura.
Sadir Japarov, le président de la République kirghize, veut instaurer un visa unique en Asie centrale, similaire au visa Schengen. Pour Mikhaïl Levistone, doctorant au Centre de recherche Europe-Eurasie à l'INALCO, c'est un objectif désormais réalisable.
C'est quelque chose qui n'est pas forcément infaisable, je dirais même à court terme. Il y a déjà des régimes sans visa entre certains de ces pays.
Notamment entre l'Ouzbékistan et le Tadjikistan depuis 2016. Pour le chercheur, une libre circulation généralisée répondrait à plusieurs enjeux.
Si vous voulez, vous avez une réalité administrative frontalière qui cadre pas toujours avec le paysage ethnique de l'Asie centrale. Donc je pense que c'est une fois encore pour aller dans cet élan de resserrement des liens entre pays d'Asie centrale, entre peuples centra-asiatiques, aussi favoriser des synergies économiques.
Et à l'échelle internationale, une plus grande ouverture de l'Asie centrale peut aussi bénéficier à des acteurs extérieurs. Mikhaïl Levistone.
C'est une région qui est vraiment un carrefour stratégique en fait entre la Russie au nord, la Chine à l'est. L'Afghanistan au sud et un pays comme l'Iran. D'ailleurs, les Israéliens ont inauguré une ambassade à Ashgabat, la capitale du Turkménistan, qui se situe à quelques dizaines de kilomètres à peine à la frontière avec l'Iran.
L'ouverture progressive de l'Asie centrale rebat les cartes du grand jeu dans cette région, carrefour majeur des ambitions des grandes puissances.
Des responsables thaïlandais sanctionnés par Washington pour avoir expulsé des forces ouïghours, Ils ont été interdits de séjour, c'est ce qu'indique le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Washington ajoute que les États-Unis auront désormais pour politique de prononcer des sanctions à l'encontre de tout responsable étranger et qui serait impliqué dans des transferts forcés d'Ouïghours. En République démocratique du Congo, une vingtaine de soldats burundais alliés au FARDC ont été tués et une dizaine d'autres blessés. Et ce, depuis le début de la semaine, dans des affrontements contre le M23 appuyé par le Rwanda. D'après l'AFP, cela s'est passé dans les montagnes qui surplombent la plaine de la Ruzizi dans la province du Sud-Kivu. Un officier du grade de major a été capturé par le M23 lors de cette attaque qui visait la localité de Kaziba, au nord d'Ouvira. Direction le Tchad, la chef des députés du Rassemblement National, Marine Le Pen, est en visite tout le week-end. Elle est invitée par le président Mahamat Idriss Déby, qu'elle doit rencontrer à Amdjaras. Raphaël Delvolvé, Marine Le Pen entend défendre un partenariat franco-africain renouvelé au moment où l'armée française est de moins en moins désirée sur le continent africain.
Fidèle à sa ligne souverainiste, Marine Le Pen assure vouloir retisser des relations sur la base d'un respect mutuel. Si l'armée française est récemment partie du Tchad et d'autres pays du continent, le parti d'extrême droite pointe la responsabilité du pouvoir français et les changements de pied, dit-on, incessants du président Macron. On s'est fâché avec le monde entier à cause de lui, répète-t-on dans l'entourage de la finaliste de la dernière présidentielle française. Cette posture trouve évidemment un écho à N'Djamena et donne aussi à Marine Le Pen une occasion de se tailler une stature de femme d'État à l'international. Elle a d'ailleurs prévu d'évoquer les crises africaines au Soudan voisin, mais aussi en République démocratique du Congo. Les élus RN demandent depuis de nombreuses semaines maintenant des sanctions contre le Rwanda. C'est le second voyage de Marine Le Pen au Tchad. Le premier remonte à 2017, alors en pleine campagne présidentielle. Idriss Déby était alors le premier chef d'État africain à la recevoir sur le continent.
Et puis du sport avant de fermer ce journal, en cyclisme, Mads Pettersen remporte la 6e étape de Paris-Nice. Victoire sous un véritable déluge de pluie et de grêle. Les conditions météo seront similaires samedi lors de l'étape Rennes entre Nice et Oron. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.